Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Ce jeudi 10 février, bonne journée, bienvenue au 98,5 avec deux, trois jours pas mal identiques. Chapitre de la météo. Ça commence ce matin par un ciel nuageux. On a au-dessus de 2 degrés. Le maximum prévu aujourd'hui, 4 degrés. Mais attention, généralement nuageux. Des averses de pluie ou de neige parsemées tout au cours de la journée. Avec des vents qui, en après-midi, pourraient atteindre 50 km/h. Et je vous le disais, le maximum 4 degrés. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux. Encore là, des averses, pluie, neige. Autour de moins 2 durant la nuit. Puis on termine la semaine demain avec encore là, cocktail d'averses, de pluie, de neige, au-dessus de 0, 2 degrés. Donc, des températures, je ne dirais pas printanières, mais quand même plus confortables. C'est le même scénario pour samedi, avec 2 degrés, de la pluie intermittente. Puis, c'est le retour des températures froides dans la nuit de samedi à dimanche. On prévoit moins 19. Et dimanche, belle journée, c'est du soleil, mais moins 14. Parlons d'abord de ce mouvement des camionneurs qui non seulement s'élargit au Canada, mais a des répercussions dans d'autres pays. Le nerf de la guerre, au-delà du siège devant le Parlement, c'est bien sûr le pont Ambassadeur qui relie Détroit vers Windsor. C'est un corridor économique majeur. Les estimés varient, là, mais c'est quelque part autour de 400-450 millions de biens, de marchandises qui transitent entre le Canada et les États-Unis chaque jour. Depuis 3 jours, donc, c'est bloqué. Donc, surtout pour les camionneurs qui reviennent vers le Canada. De l'autre côté, officiellement, ça roule, mais en même temps, on peut observer des ralentissements. Et donc, c'est à peu près là, le volume d'un quart de tous les échanges commerciaux entre les deux pays. Alors, vous comprendrez le nerf de la guerre. La conséquence de ça, c'est que vous avez déjà deux gros fabricants automobiles, Ford et Toyota, qui ont annoncé, par exemple, qui devaient couper dans la production, mettre à pied des employés pour une période indéterminée, essentiellement parce que c'est l'approvisionnement en pièces qui fait défaut. On sait que la chaîne d'approvisionnement demeure fragile. Certaines composantes pour les véhicules sont difficiles à trouver. Il y a des délais qu'on a vus depuis le début de la pandémie. Et tout cela vient donc s'ajouter. Alors, vous avez le maire de Windsor qui regarde la situation et qui dit que, on comprend l'enjeu, là, c'est-à-dire des manifestants comme les autres qui sont opposés aux mesures sanitaires, qui veulent la levée, par exemple, de l'obligation d'être vacciné pour faire le commerce transfrontalier. Et il est convaincu, et je vais le citer, qu'il est préférable de prendre la voie diplomatique plutôt que d'utiliser la force, parce que, j'ouvre les guillemets, il y en a qui sont prêts à mourir. Il y en a qui veulent devenir comme des espèces de martyrs de la cause. Et vous avez remarqué comme moi que le discours a tendance à s'enfler pas mal. On avait un autre extrait tantôt d'un manifestant qui dit qu'il y a des gens qui veulent commettre des crimes extrêmement violents allant jusqu'à l'assassinat. Et je vous le dis, ça tombe pratiquement d'une façon banale comme les menaces de mort que tu peux recevoir sur les réseaux sociaux. On est dans une société là, où, disons, ça polarise beaucoup. Et la haine est devenue comme normale dans beaucoup de conversations. Alors, ça, c'est la situation là-bas. Pas d'intervention policière, mais on surveille. À Ottawa, certain nombre d'enjeux. D'abord, on ne peut pas dire que le mouvement s'essouffle. Plus tranquille en semaine, les effectifs grimpent durant la fin de semaine. Il ne manque pas d'argent, il ne manque pas de pétrole, de diesel. Et ils sont là. Et la police n'intervient pas. Il y a quelques arrestations mineures, quelques constats d'infraction. Et c'est tout. Et puis à Québec, ben, on se prépare, pas ce week-end, mais l'autre, à voir le retour des manifestants. Puis je regardais ce matin en France, puis je vous donne un peu Les dernières infos, la préfecture de police de Paris qui interdit l'accès à la capitale pour tous les convois qui ont démarré mercredi. Ça a commencé hier, des quatre coins de la France. Les manifestations sont interdites de vendredi à lundi. Il n'est pas question de laisser entrer un convoi sur les Champs-Élysées. Il n'est pas question de laisser entrer des camionneurs en groupe. Alors, est-ce qu'ils vont arriver un par un, se regrouper pour déjouer la stratégie? C'est à voir. Mais ils n'auront pas le droit de passer par la capitale. Ils devront contourner Paris et poursuivre leur route. Il y a un dispositif, je cite la police, spécifique qui sera mis en place pour empêcher le blocage d'axes routiers, verbaliser, interpeller les contrevenants à cette interdiction de manifestation. Puis vous avez vu des manifestations aussi. Aux États-Unis, il y a des convois. Certains pensent que le Super Bowl de dimanche pourrait être perturbé. On a vu également des protestataires dans d'autres villes, Nouvelle-Zélande. Là. Il y a des mouvements qui s'organisent, inspirés, pas mal par ce qui se passe à Ottawa. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé du Canada, de l'étranger, que depuis les débuts de ce mouvement. Donc, un effet sur la chaîne d'approvisionnement, alors que, si on se concentre sur le Québec, on est entré dans une phase progressive de déconfinement. Et il y a un certain nombre, je vous dirais, de mesures qui devraient nous intéresser aussi. Parce que quand on fait le bilan, là, les gens qui sont vaccinés peuvent reprendre pas mal leurs activités. Là. Les restos vont être capables d'accueillir des tablées un peu plus grandes, c'est-à-dire pouvoir recevoir des gens chez vous, pratiquer votre sport, aller voir un spectacle. Je comprends qu'il y a des conditions, là, dont le passeport vaccinal, mais c'est pas une vie normale. Mais disons que pour les quatre prochaines semaines, là, jusqu'à la mi-mars, ben, on se retrouve avec un retour à, appelons ça, une vie un peu plus agréable. Premier constat qu'on peut faire. Mais il reste deux ou trois irritants que j'aimerais vous mettre sur la table ce matin. Le premier, là, moi, c'est une pensée pour les personnes âgées qui sont en résidence. Je me suis rendu compte par vos courriels nombreux que c'est à géométrie variable d'un établissement à l'autre. On sait que Québec a décrété que dans les milieux d'hébergement, bon, les aidants naturels, c'est déjà le cas, peuvent y aller, là. Passeport vaccinal. En principe, tu avais le droit de recevoir de la visite. Mais je vous le dis, là, ça a l'air qu'à Montérégie, en plus, c'est peut-être un des endroits où on était plus sévère. L'espèce de panique de se dire, on veut pas revivre, là, l'hécatombe dans les résidences comme telles. Donc, des propriétaires qui demandent à Québec d'avoir des directives claires, un message clair, et surtout de dire aux CIS puis aux CIUS de montrer un peu de flexibilité puis de faire en sorte que ce qui est vrai dans une résidence devrait être aussi vrai pour l'autre. C'est pas parce que tu as un cas de COVID puis il y a 500 personnes où tout le monde est à peu près vacciné là, que tu es obligé de vivre une situation comme celle-là. Alors, puis le ministre Christian Dubé a reconnu hier que la situation était beaucoup intenable pour ces gens-là. Puis c'est d'une tristesse de voir, justement, des personnes âgées qui sont enfermées, qui n'ont pas de contact pendant de longues périodes de temps avec les autres, des contacts téléphoniques, mais pas de contact réel, et qui vivent dans ces conditions-là. Moi, je trouve ça aberrant. Puis je comprends le sens de la précaution, mais disons qu'il ne faut quand même pas capoter à ce point-là. L'autre chose, c'est les fameux tests à la frontière, là. Encore ce matin, j'avais des courriels de gens qui sont confinés parce qu'ils attendent le résultat d'un test. Et je rappelle là, que les gens qui voyagent par avion, les gens qui traversent aux États-Unis, sont des gens vaccinés, sont des gens qui passent un test avant de partir. C'est des gens qui passent un autre test avant de revenir, puis à qui on impose un autre test une fois ici. Puis je vous donne le cas, là, un autre. Le monsieur part 72 heures pour affaires aux États-Unis. Vacciné, pas de symptômes, passe son test avant de partir, accepte donc de refaire un autre test. Il arrive ici, c'est aléatoire, là, c'est un test qu'on lui a fait faire, puis là, on lui explique qu'il faut qu'il retourne chez lui puis qu'il attende le résultat. Après quelques jours, on dit, ben on a un problème avec votre test, là, il est peut-être corrompu, on ne sait pas ce qui est arrivé. Fait qu'il faut en passer un autre, puis entre-temps, rester chez vous. Écoute, il dit, moi, je travaille, là. J'ai pas un maudit symptôme. Et là, vous avez une espèce de chorale qui se fait entendre de l'industrie touristique, les chambres de commerce, les compagnies aériennes qui disent, puis il y a une conférence de presse de médecins ce matin à Toronto qui vont dire « ça tient pas la route ». Il n'y a pas de données scientifiques qui viennent appuyer ça, là. T'sais, c'est bien beau, la ceinture, les bretelles, c'est comme beaucoup. Et le Dr Weiss, qui vous l'avez entendu sur nos ondes, prône justement ces espèces de mesures, en fait, l'abandon de ces mesures, justement parce que la situation change. Qu'est-ce qu'on a découvert hier? 2 millions de Québécois, probablement, qui ont eu la COVID. C'est un estimé. Depuis décembre, c'est énorme. Les gens sont vaccinés. Puis quand vous regardez les hospitalisations qui baissent doucement, vous vous rendez compte justement de l'efficacité de la vaccination. Et en passant, il y a des vaccinateurs qui se font remercier de leur service parce qu'il n'y a pas assez de monde qui vient de se faire vacciner. Je vous dis ça, là, des gens qui ont reçu des lettres hier. Alors, la vaccination, ça fonctionne. Tu as peut-être la COVID, mais tu vas avoir des symptômes pas mal moins graves. Et je pense que la preuve a été assez claire, là, ce qu'on a pu démontrer hier. Et puis d'autres auditeurs qui me parlent, non seulement d'ambassadeurs, là, mais tout le secteur de Sarnia en Ontario aussi. Là, vous avez raison de m'informer de ça. Je vous parlais des tests PCR à la frontière dans Le Devoir ce matin. On a des chiffres concernant la fréquentation du chemin Roxham depuis que ça a été rouvert le 21 novembre dernier. Et disons qu'après les premières heures où c'était de nouveau accessible, bien, on s'est rendu compte que ça demeurait extrêmement populaire. Ce sont des gens qui, bon, évidemment, transitent par les États-Unis, mais viennent principalement d'Haïti, de la Colombie, de la Turquie, du Chili et du Nigeria. 2875, c'est le nombre de personnes qui sont entrées au Canada de manière irrégulière, parce qu'on n'a pas normalisé non plus le processus d'entrée. Et ça veut dire quand même que c'est en forte augmentation. C'est sûr que quand c'est fermé, il n'y a personne, mais là, c'est ouvert. Et ça vient mettre une pression pour trier les informations, filtrer les gens qui passent par le chemin Roxham. C'est un sujet chaud. Il y en a qui ne comprennent pas. Puis je vois l'image que vous allez me sortir. Pourquoi moi, je me ferais tester, puis ces gens-là, ils rentrent, puis ils sont pas, etc., etc. Alors, c'est sûr que c'est un enjeu. Puis en même temps, le Journal de Montréal, ce matin, qui publie des chiffres sur les armes saisies à la frontière, et ça a doublé depuis 2016. Donc, 1122 armes à feu illégales ont été saisies en 2021, alors que c'était autour de 495 l'année précédente. Et on sait comment ça entre. Puis on en a parlé avec le directeur du SPVM l'autre jour. Les armes qui transitent, qui se ramassent à Montréal, qui arrivent par des corridors qu'on connaît tous, là, par Aquasassiné, qui arrivent même parfois par d'autres types de livraisons, des fabrications d'armes aussi. Alors, il y a une circulation. Puis on l'a vu encore avec plusieurs événements violents qui impliquent des armes à feu sur le territoire montréalais. M. Trudeau se fait brasser le pompon par les membres de son parti. Et on a vu le député Joël Lightbound qui a décidé, et il a été applaudi par plusieurs, puis même, paraît-il, qu'au sein du caucus, certains répètent, Joël a dit pas mal ce qu'on pense, mais on veut pas une fronde au chef. Mais la gestion Trudeau de la crise actuelle amène de la grogne. Lightbound a dit, c'est un peu trop. Et ça a des effets sur l'économie, ça a des effets sur le moral des gens. Et là, vous avez le député Yves Robillard, qui est de Marie-Victorin, qui a dit « Je suis d'accord avec tout ce que dit Lightbound ». Il a donné une entrevue à un journal qui s'appelle The Hill, c'est un média parlementaire, là. Et vous retrouvez ça dans l'ensemble de vos journaux ce matin. Lui, M. Robillard, il avait pris des vacances à un moment donné, puis il s'était fait ramasser. Parce que, tu sais, député en vacances, pas un bon exemple, etc. Alors, c'est sûr que ses liens avec le parti sont un peu plus raides. Mais attention, moi aussi, peut-être qu'on en reparlera avec Jonathan tantôt, là, mais que c'est pas vrai que Lightbound est plaqué dans le coin puis que c'est le mouton noir là, du parti. Hein, cette espèce d'inconfort là, qui se fait entendre. On a également des données démographiques sur le Québec. Et bon, d'abord, le poids démographique du Québec au Canada diminue. Donc, notre influence en termes de population baisse d'année en année. C'est une tendance qui est claire, là. Le Canada, par contre, est le pays du G7 où la population augmente le plus. Ça augmente beaucoup par l'immigration. Or, on se rend compte que le Québec accueille moins d'immigrants que le reste du Canada. Et les chiffres sont quand même assez, disons, clairs là-dessus. C'est une tendance là, qui existe depuis plusieurs années. Également, l'autre phénomène, c'est l'étalement urbain. C'était vrai depuis plusieurs années, mais ça a probablement... C'est un mouvement qui s'est accéléré avec la pandémie, le retour vers une deuxième couronne et plus loin, puis convaincu qu'il y a des gens, je reçois ça souvent des courriels, « Monsieur Arcand, j'étais un auditeur de Laval, un auditeur de Longueuil, je suis rendu à Baie-Comeau, je suis rendu dans les cantons de l'Est, je suis rendu très loin dans les Laurentides, c'est un choix de vie, je travaille à distance, j'ai décidé de me sortir de la ville, l'immobilier c'est trop cher. » Alors, tu sais, il y a un paquet de facteurs, mais l'étalement urbain là, est confirmé par ces données, ce qui fait que ça demeure extrêmement difficile pour les villes. Puis là, Montréal, le centre-ville, beau jaser, là, puis de faire un débat sur le REM, puis le transport collectif, puis l'offre présentée aux Montréalais. Mais il y a une réalité, c'est que la population de Montréal est en train de changer parce que les plus jeunes n'ont pas les moyens de vivre à Montréal, pour la plupart. Quand tu regardes l'accès au logement, la propriété, puis il y a peut-être des gens plus vieux qui décident d'aller s'installer ailleurs. Parce que là aussi, c'est moins cher, puis peut-être parce qu'ils trouvent que la qualité de vie est plus intéressante. Alors, ça fait pas mal le tour de nos manchettes. On va parler aussi avec Fabrice de Pierrebourg tantôt du procès du seul survivant des attentats de Paris, qui a, disons, un drôle de témoignage, un drôle de discours. Et aussi, je vais vous parler ce matin du rapport sur la consommation de pétrole, le bilan énergétique du Québec. Et je pense que vous allez comprendre que quand on entend les beaux discours, par exemple, des ministres de l'Environnement, puis que tu sais, les engagements sur les gaz à effet de serre, là. Alors Pierre-Olivier Pinault, qui est le co-auteur du rapport, sera avec nous et on va découvrir d'abord que, malgré le blablabla, là, le bilan n'est pas au rendez-vous pantoute. Deux, trois éléments, je vous donne vite avant d'aller à la pause, là. Le Québec ne sera pas capable d'atteindre ses cibles, une fois de plus. Quand je parle au ministre de l'Environnement, il est toujours jovialiste, là, mais la réalité, c'est que oui, il y a eu moins de consommation d'énergie durant la COVID, c'est clair, mais qu'on reprend les tendances. Et on remarque aussi que les surplus électriques qu'on a chez Hydro-Québec seraient donc précaires et que les ventes de voitures chutent et que les camions légers, ça augmente. 71% des véhicules vendus en 2020 étaient des camions, en tout cas VUS, vous voyez le genre un peu, donc pas des voitures comme telles. C'était 44% 10 ans plus tôt. Alors ça veut dire, puis je comprends qu'il y a des véhicules comme ça qui ont une meilleure efficacité énergétique, mais quand même, vous allez voir le détail de ce rapport-là, on est pas mal loin des cibles que les politiciens nous claironnent à chaque élection.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Ben, le mouvement de protestation des camionneurs prend de l'ampleur. Ça va faire deux semaines à Ottawa, dans quelques jours. Entre-temps, vous avez ce pont, qui est un pont névralgique pour l'économie entre Détroit et Windsor, qui est bloqué. Deux grosses entreprises, Ford, Toyota, qui annoncent une baisse de la production, des mises à pied, pas capables d'obtenir les pièces nécessaires. Et puis ce mouvement-là prend de l'ampleur aussi à l'étranger. Paris a annoncé ce matin qu'il n'est pas question que les camionneurs s'approchent du centre de la ville. On verra pas des convois sur les Champs-Élysées. Et les camionneurs qui ont quitté différentes régions de la France seront détournés autour de Paris. Et mouvements identiques également en Nouvelle-Zélande, d'autres pays. Entre-temps, ben, on se dit, que fait le gouvernement canadien? Le ministre du Patrimoine et lieutenant du Québec est avec nous ce matin, Pablo Rodriguez. Monsieur Rodriguez, bonjour.
Bon matin, M. Arcand.
Votre premier ministre fait quoi, là? On a une capitale paralysée, on a un air économique paralysé, donc des entreprises puis des gens là, qui perdent leur job.
Ah oui, non, la situation, elle est très sérieuse. Ce qu'on fait, c'est qu'on collabore avec la ville d'Ottawa. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bloqué une rue. Et la responsabilité revient à la police. Je sais que c'est plate comme réponse, là, mais c'est la vérité. Alors, on collabore. Ils ont demandé des agents de la GRC. On leur en a fourni 300. Pardon, ils en ont demandé plus. Et on va être là pour collaborer avec eux.
Et au-delà de collaborer, avez-vous des discussions? Savez-vous, quand je dis vous, là, je parle de vos collègues, là, est-ce qu'il y a un plan de match? Est-ce qu'il y a un plan de sortie? Ou si on attend qu'ils décident de partir tout doucement au printemps?
Non, il y a des collaborations tous les jours. Mais lorsqu'on me dit « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas discuté avec eux? » Je vous réponds « Avec qui? » Oui, il y a des hommes, des femmes qui sont là de bonne foi, qui protestent contre certaines mesures, mais il y a aussi ceux qui organisent la manifestation, qui sont des gens qui sont ouvertement associés à des mouvements d'extrême droite, qui nous disent qu'il faut renverser le gouvernement, qu'on le fasse par les armes, il n'y a pas de problème, qui tolèrent les drapeaux confédérés, les croix nazis. Alors, avec qui on négocie, M. Arcand? Ce que l'on doit faire, c'est appuyer la police, et c'est ce qu'on fait. Il faut que ça se fasse rapidement, je suis d'accord avec vous.
OK. Est-ce que vous trouvez que ça a été mal géré, qu'on ait permis aux camions de se parquer devant le Parlement?
Oui, il y a un effet de surprise. Je pense que.
De surprise?
C'est-à-dire que Québec a bien géré ça parce qu'ils ont
vu... Non, mais attendez, là, de surprise, on a vu les convois s'organiser, partir de tous les coins du Canada. Là. J'espère que personne n'était surpris de les voir arriver.
Ben, écoutez, la police d'Ottawa a fait ce qu'elle peut. On n'est pas habitué à ce genre de choses ici chez nous. Là. Ça c'est du jamais vu. Je pense qu'on va tous tirer des leçons de ça. Mais là, actuellement, ce que ces gens-là font, c'est qu'ils prennent une ville en otage carrément. D'une part. D'autre part, ils nous disent, ben, on manifeste parce qu'on veut un transport plus facile entre les pays. Ils sont en train de bloquer des pompes des frontières. Donc, ils vont carrément à l'encontre de ce qu'ils disent prôner.
Si le centre-ville, ça relève de la ville d'Ottawa, puis ultimement peut-être la province, oui. L'Ontario, le pont entre Détroit et Windsor, là, ce corridor économique, ça, c'est dans votre cours.
Oui, mais ce qui bloque, c'est les routes. C'est les routes en allant au pont.
Vous avez l'air d'un directeur d'école qui dit deux élèves, ils se battent l'autre bord de la rue, c'est pas mon trouble.
Et encore une fois, on collabore avec eux, par exemple, ils bloquent aussi un poste frontalier, près d'un poste frontalier en Alberta. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre d'autres postes, on fournit plus de gens, Mais encore une fois, on va pas envoyer l'armée, là. Premièrement, il n'y a pas de demande. Et deuxièmement, lorsqu'on a utilisé l'armée dans ces circonstances-là, c'est extrêmement délicat. Et c'est pas le choix du gouvernement. Par contre, comment on peut collaborer, c'est à travers la GRC. Est-ce qu'on fournit plus de personnes? Absolument. Et on s'attend à ce que le gouvernement Ford fasse son bout aussi.
Comment vous évaluez la performance de votre chef?
Mais il est là, c'est-à-dire temporairement moins visible parce qu'il y a eu la COVID, mais dès qu'il a pu, il est venu au Parlement la première journée que ça a été possible.
Trouvez-vous que le leadership s'exprime avec conviction et force?
C'est-à-dire que je lui parle, on se parle
régulièrement. Non, mais je parle pour les Canadiens, là.
Ben oui, moi je pense que oui. C'est-à-dire qu'il a été très clair dans ses propos, très clair sur le fait que ça doit arrêter, très clair sur le fait que c'est une manifestation illégale, qu'il faut bouger, très clair dans son appui à la ville d'Ottawa également.
Mais quand des députés comme Joël Lightbound remettent en question la stratégie, les mesures sanitaires, le plan qui a été, celui du gouvernement, est-ce qu'il est un tireur en solo, un tireur solitaire, ou s'il est l'écho d'une certaine grogne dans votre caucus?
Ben, de ce que j'ai vu hier, c'est isolé, mais il y en a peut-être d'autres qui pensent ça, mais vous savez...
Vous êtes le lieutenant du Québec.
On est tous écœurés de la pandémie. Là.
Non, mais ce que je veux savoir, vous êtes le boss du Québec là, pour le Parti libéral, puis vous parlez aux députés du Québec.
Oui, absolument.
Puis des autres provinces. Bon. Sentez-vous une insatisfaction de la députation face au plan sanitaire de votre gouvernement?
C'est-à-dire que je sens qu'il y a des questions, et d'ailleurs, c'est ce que Joël a demandé hier. Il disait, ben là, il faut me remettre en question certaines choses, les mesures. Et on le fait à tous les jours, M. Arcand. Il n'y a pas une journée où on ne parle pas à la santé publique ou poste frontalier, à toutes les agences. Et c'est évolutif, une pandémie. Alors, on s'adapte et on va s'adapter, ça, c'est sûr.
Ma question, c'est pas tout à fait ça. Sentez-vous qu'il y a une grogne chez vos députés?
Non. Honnêtement, non. Non. On était en caucus hier, non. Est-ce qu'il y a des députés insatisfaits? Oui. Il y en avait-tu il y a 2 ans, puis il va y en avoir dans 5 ans? Oui.
Mais il y en a-tu plus cette semaine qu'il y en avait peut-être avant Noël?
Non, je pense que la sortie de Joël a évidemment attiré beaucoup l'attention là-dessus. Mais dans le cas de Joël, que j'aime beaucoup par ailleurs, là, c'était vraiment parce qu'il voulait que le gouvernement adapte ses mesures. Et encore une fois, on le fait sur une base régulière.
Mais prenons la stratégie à la frontière. Là. Puis je donne des exemples d'auditeurs qui viennent de vivre ça. Ils sont double puis triple vaccinés. Ils ont passé un test avant d'aller, exemple, aux États-Unis. Ils vont aux États-Unis. Ils repassent un test pour revenir. Quand ils arrivent par la voie terrestre, ils n'ont pas encore le résultat parce qu'il y a eu un délai. puis on les revire de bord, puis on les empêche d'entrer au Canada. C'est normal? Puis le test PCR, au retour, est-ce que c'est encore nécessaire?
Non, qui était reviré de bord, non. Mais, vous savez, encore une fois, on suit les directives de santé publique. Elles sont évolutives. Est-ce que ça va rester là tout le temps? Je ne sais pas.
Non, mais actuellement, il y a des médecins qui font une conférence de presse à Toronto ce matin pour justement dire, là, ça n'a plus de bon sens. Il n'y a rien de scientifique avec la... Pour des gens vaccinés, testés avant, au retour, c'est comme fourraide.
Ben, c'est pas scientifique. On prend les directives de santé publique. Donc, c'est
non, mais
c'est
les médecins, eux, disent que...
Oui, santé, mais on écoute, on travaille avec santé publique tous les jours. Mais, chaque décision qu'on a prise, M. Arcand, chaque décision, là, c'est pour sauver des vies. Il n'y en a pas d'autre raison. Est-ce que ça peut, oui, être fatigant? Oui, est-ce qu'on est tanné? Absolument. Mais est-ce que
c'est toujours justifié?
Ben, on va le faire jusqu'à temps que ça ne le soit plus. Si on le fait encore aujourd'hui, c'est parce que ça l'est. Le jour où ça ne le sera pas, puis ça peut être demain ou dans deux mois, ben à ce moment-là, ça va changer.
Quand vous dites que c'est la santé publique, est-ce que ça ne devient pas l'excuse facile aussi?
Non. Non.
Parce que le leadership politique, c'est un peu... La santé publique fait une recommandation. Le pouvoir politique prend la décision.
Absolument. 100%. Et on l'assume. Et ça, vous avez tout à fait raison. Mais on se base sur ces conseils-là. Je veux dire, il n'y a personne d'entre nous qui est expert. Je ne le suis vraiment pas.
Non, il ne s'agit pas d'être expert.
Alors, on prend les recommandations de santé publique. On doit aussi regarder l'impact sur l'économie et ainsi de suite. Et on le fait encore une fois sur une base quotidienne. Là.
OK. Alors, en résumé, vous regardez ce qui se passe dans le centre-ville. Vous regardez ce
Donc,
qui se passe.
On collabore avec eux. On collabore avec la police d'Ottawa.
Hey, ça vous a pris une semaine à faire une table de discussion sur ce qui se passait devant le Parlement.
On se parlait tous les jours. On avait fourni des agents de la GRC auparavant. Alors, la réalité, c'est ça. Là. Oui, c'est la rue qui est devant le Parlement, mais c'est une rue qui est sous la juridiction de la police d'Ottawa. Alors, et je pense que la police d'Ottawa commence à bouger un peu plus. On limite l'entrée de ravitaillement en termes d'essence et ainsi de suite. On va appuyer leur effort.
OK. M. Rodriguez, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir. Pablo Rodriguez, c'est le ministre du patrimoine canadien et lieutenant du Québec.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Maintenant, on va parler de camionnage directement parce que je vous le dis, à Ottawa, ça continue. Puis il y a ce blocus, donc, au pont Ambassadeur qui fait le lien entre le Canada et les États-Unis, donc Windsor et Détroit. Et déjà, on parle de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Marc Cadieux est le PDG de l'Association du camionnage du Québec. Monsieur Cadieux, bonjour.
Oui, bonjour, bon matin, Monsieur Arcand.
D'abord, un mot peut-être sur le siège à Ottawa. Là, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ce siège et ses moyens de pression. Est-ce qu'il y a un impact actuellement sur l'industrie du camionnage? Il y avait déjà problème de main-d'œuvre, mais quand on voit des convois Ottawa, Québec, qui reviennent dans deux semaines, est-ce que ça a un effet sur les livraisons?
C'est certain que toute perturbation, fluidité à la circulation dans le domaine du lourd et des transports de marchandises a bien sûr un impact. Vous l'avez bien dit, la pénurie de main-d'œuvre est forte dans notre industrie. Elle existait avant la pandémie. Bien sûr qu'elle est exacerbée avec toute la pandémie. Et en ce moment, je vais vous dire que les transporteurs que je représente, qui sont les flottes majeures au Québec et certaines dans d'autres provinces, s'affairent évidemment à essayer de remplir la commande, si je peux le dire ainsi, de faire en sorte que la chaîne d'approvisionnement soit maintenue. Et on gère en ce moment beaucoup de taux d'absentéisme. On sait que la vague actuelle de la COVID interpelle beaucoup plus d'absentéisme. Et ça, évidemment, ça vient pas. C'est une donnée qui s'ajoute.
OK. Quand vous dites de l'absentéisme, êtes-vous capable de chiffrer le phénomène?
Écoutez, faudrait que j'aille à la pièce, puis je peux pas donner un chiffre général, mais quand je parle à des transporteurs qui me disent que la veille, près de 40% de leurs employés à l'entrepôt pour préparer les voyages au départ du matin ont été malades ou ne sont pas présents. Ça illustre un peu un modèle, mais je peux pas faire le tour de tout le monde à tous les jours.
Non, je comprends. Il y a beaucoup de j'imagine de ces employés qui sont des parents puis qu'ils ont un enfant COVID testé positif qui donc ils doivent s'isoler.
Oui, puis vous savez, M. Arcan, vous avez un enfant qui revient dans la garderie, qui a le COVID, bon. Il transmet à sa mère, son père ne l'a pas, son père finit par l'avoir, sa petite sœur ou son petit frère, l'autre frère finit par l'avoir. On n'est plus dans une plage de 4-5 jours par individu, on gère en cohorte familiale 10, 12, 15 jours souvent dans l'approche familiale, parce que si vous êtes dans une enceinte ou dans une maison dans laquelle il y a une COVID, ben vous pouvez pas vous présenter au travail non plus, même si vous-même vous êtes plus porteur.
OK. L'autre question, quand on parle des chauffeurs, là, pour ce qui est du commerce et du transport, le transfrontalier, est-ce que le fait qu'on demande maintenant la preuve vaccinale, il y a beaucoup de chauffeurs là, des compagnies que vous représentez qui ont dit « ben moi, je peux plus y aller », puis trouver quelqu'un, puis est-ce que ça affecte les liaisons?
Écoutez, c'est certain qu'on est le reflet de la société en général. Presque 90%, si je peux utiliser le chiffre qui circule, de nos chauffeurs sont vaccinés. Bien sûr qu'il y en aura toujours certains qui sont plus téméraires et qui n'iront pas. D'autres ont attendu un peu dans le temps, donc on est allé chercher de meilleurs chiffres. Lorsqu'on a fait des représentations à Ottawa pour tenter d'avoir une date plus loin que le 15, c'était pour aller chercher, bien sûr, un pourcentage plus élevé et non pour se soustraire complètement de la vaccination à cette époque. Bon, les Américains ont aussi emboîté le pas, donc si on peut pas y aller, maintenant on peut pas revenir non plus. Donc, ce qu'on essayait de faire, c'était d'aller chercher le plus grand pourcentage, mais les entreprises tentent évidemment de rediriger leurs travailleurs vers des routes sur lesquelles il n'y a pas évidemment ces obligations.
OK, ça veut dire qu'un non-vacciné, par exemple, habitué de faire, je sais pas moi, Montréal-New York ou Montréal-Détroit, ben pourrait être affecté sur des routes intérieures là, au sein de la province.
Absolument. C'est pas toujours aussi facile que dit, parce que c'est toujours évidemment en concomitance avec les clients que nous devons desservir. Alors, un transporteur qui a jamais fait du Montréal-Abitibi ou du Québec-Abitibi, puis qui a pas de clients dans ce coin-là, c'est sûr que c'est pas évident. Mais je peux vous dire que les entreprises ont fait des pieds et des mains pour tenter de rediriger leurs employés vers des routes dans lesquelles il n'y a pas ces contraintes. Puis on sait qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Hein, donc je veux pas vous dire que c'est écrit partout, nous embauchons dans tous les milieux d'industrie, donc on est dans ça. Fait que quelqu'un peut facilement se retrouver un boulot dans notre industrie, ça c'est sûr et certain.
Bon, parlez-moi de ce fameux pont ambassadeur, là, ce corridor entre le Canada et les États-Unis. Je lisais ce matin que c'est l'équivalent d'à peu près 25% là, du commerce entre les deux pays. Ça veut dire que quand ça bloque, ça a un effet presque automatique.
Oui, mais écoutez, c'est 4000 camions par jour, c'est 350 millions d'échanges qui passent par ce pont-là, cette infrastructure-là. Vous savez, si je donne le portrait général là, des échanges canado-américains, ce sont des milliards de dollars, c'est 650 milliards de dollars qui représentent cette économie. Donc, c'est gros pour le Canada de voir, évidemment, une perturbation dans des chiffres économiques aussi éloquents. Et nous, on est régi aussi par les heures de service, donc vous pouvez croire là, que tout ce qui est en attente dans les bouchons de ces blocus, évidemment, interpelle plusieurs lois. Nous aussi, on peut manquer de carburant. Il y a des contournements, mais il y a beaucoup de postes frontaliers qui ne peuvent pas recevoir ce débit de circulation parce qu'ils sont de beaucoup de moindre importance et n'ont pas, évidemment, les infrastructures pour recevoir autant de lourds.
Mais là, est-ce que je comprends que les camions là, peuvent encore entrer aux États-Unis, mais ne peuvent pas revenir au Canada?
Ben, en fait, je pense que c'est, si on parle du pont ambassadeur, oui. il y a eu des moments où il y a eu des déblocages momentanés, mais tout le jeu est pas évident. En ce moment, si on suit ce qui se rapporte sur le terrain, ça bouge pas, mais il y a eu des moments où on avait réussi à faire bouger des choses. En Alberta, on a réussi à coups de faire bouger des choses, mais c'est intermittent et pour avoir parlé à des transporteurs. En ce moment, je vais vous dire, M. Arcan, les transporteurs qui ont des voyages, qui quittent pour ça, ont tout suspendu ça parce qu'ils ne veulent pas envoyer, évidemment, leurs équipements dans de telles approches. Donc, regardez, si un transporteur a 50 voyages dans une journée à partir des États-Unis par ces routes-là, qui n'y va pas, pouvez-vous imaginer, après 10 ou 12 jours de non-départ, ce que ça peut donner? Ça va prendre des mois avant de récupérer toutes ces pertes de temps.
Merci, M. Cadieux. Bonne journée.
Marc, je vous en prie, bonne journée.
Cadieux est le PDG de l'Association du camionnage du Québec.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Ce matin, dans le rapport sur l'état de l'énergie au Québec, c'est le rapport 2022. Il y a des choses intéressantes, comme à l'habitude. Pierre-Olivier Pinault, qui est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie, puis co-auteur du rapport, est avec nous. Monsieur Pinault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
C'est intéressant ce matin parce qu'on voit que la pandémie, évidemment, a eu un effet, mais c'est comme une parenthèse à travers une tendance, je dirais, dans la filière énergétique du Québec.
Oui, absolument. Comme on le sait, on s'est tous confinés en 2020 et puis on est sorti de ça un petit peu, même si on a encore certaines mesures qui sont en vigueur. Et ça a eu un impact sur la consommation d'essence. Donc en 2020, on a eu une chute de la consommation des produits pétroliers au Québec de 11%. Mais c'est remonté depuis. On n'est pas tout à fait au niveau pré-pandémique, mais on les atteint pas mal parce que l'activité, comme on le voit sur les routes, et peut-être qu'avec les problèmes avec le camionnage, ça va diminuer un peu, mais globalement, l'activité sur les routes a repris et la consommation de pétrole repart à la normale et à la hausse.
Donc, il n'y a pas eu de changement de tendance, par exemple, au niveau du type de véhicule acheté, au niveau de la consommation comme telle. C'est une parenthèse et on est en train de rattraper là où on était avant la pandémie.
Oui, et en fait, on accentue encore davantage. Là, on a vu une chute encore plus marquée des ventes de voitures et il ne se m'en vend maintenant quasiment plus que des camions légers, des VUS et des pick-up. Et ça, la part de marché des ce qu'on appelle camions légers, donc tous les VUS, elle a augmenté pendant la pandémie et on d'ici quelques années, on ne vendra plus de voitures chez les concessionnaires. Et ce matin, je disais dans les médias que Chevrolet allait annoncer la fin de la Spark, qui est la plus petite voiture vendue au Canada, mais elle sera plus vendue parce que les consommateurs n'en achètent pas.
Mais est-ce que ces véhicules sont quand même plus performants dans le sens où consomment moins d'énergie, moins de pétrole qu'avant?
Tous les véhicules qu'on achète neufs aujourd'hui consomment moins que le véhicule équivalent qu'on aurait pu acheter il y a 5 ans ou 10 ans. Fait que individuellement, chaque véhicule s'améliore. Le problème, c'est que les consommateurs passent à des catégorie de véhicules supérieurs et quand avant ils avaient une berline, aujourd'hui ils ont un VUS qui lui va consommer autant que la berline d'il y a 5 ans ou 10 ans. Donc on n'a pas de gain de consommation au total et le nombre de véhicules ne fait qu'augmenter. On a environ 100 000 véhicules de plus chaque année dans le parc automobile du Québec. Et donc même si dans ces 100 000 nouveaux véhicules et véhicules supplémentaires, il y a quelques véhicules électriques, on vend vraiment pas assez de véhicules électriques pour que le parc de véhicules à essence émetteur diminue. Il augmente encore aujourd'hui.
Bon, l'autre question que je me pose à chaque fois, quand on regarde les engagements des politiciens, quand les ministres de l'Environnement fédéral, provincial nous fixent des cibles, présentent des plans, des stratégies, est-ce que dans la production de gaz à effet de serre, dans la lutte contre les changements climatiques, on avance, on fait du surplace, on recule dans les faits?
Mais dans les faits, on fait du surplace parce que même si depuis 1990, les émissions ont diminué de 3%, ça fait 5 ans d'affilée qu'elles augmentent les émissions au Québec. Donc, on a eu des gains dans les années 90-2000, mais là, depuis 2014-2015, ça ne fait qu'augmenter. La pandémie aura évidemment été encore une fois une parenthèse parce qu'il y aura une diminution, mais à l'échelle internationale et au Québec, on le voit, ça remonte, ça suit la consommation de produits pétroliers. Donc les programmes ne fonctionnent pas, il faudrait les revoir en profondeur, chose que malheureusement les gouvernements ne font pas. Ils réitèrent et mettent plus d'argent dans des programmes qui malheureusement n'ont pas fait leurs preuves ces 20 dernières années. Et ça, c'est
Vous pensez à quoi comme programme là, qui en fait, ils ont donné peu de résultats?
Mais on peut redonner l'exemple des voitures électriques. C'est un programme qui coûte très cher au gouvernement, 8 000 $ par véhicule électrique. On en vend quand même plusieurs dizaines de milliers des véhicules électriques, donc c'est des centaines de millions. Mais globalement, le parc automobile continue de devenir plus émetteur parce que en parallèle, on ajoute davantage de gros véhicules sur les routes. Ce qui fait que ça, les véhicules électriques n'amènent pas une réduction des émissions de gaz à effet de serre quand on regarde les émissions du parc automobile. Parce qu'il faudrait un programme bien plus agressif qui amène les Québécois à ne pas acheter des VUS. Parce qu'aujourd'hui, on dit acheter une voiture électrique, mais on continue d'amener plus de gros véhicules sur les routes. Ce qu'il faut, c'est que le parc automobile soit moins utilisé avec moins de véhicules pour qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est les programmes qu'on met en place aujourd'hui ne permettent pas de réduire globalement, de manière absolue, les émissions.
On a vu dans les derniers jours, les dernières semaines, le prix de l'essence augmenter quand même de façon importante, là, comme on n'a pas vu depuis longtemps. Avez-vous l'impression qu'avec l'effet du prix du carbone, la fameuse taxe carbone et autres données entourant la fixation du prix du pétrole, il faut que les automobilistes se mettent dans la tête que le prix ne va pas baisser, là, que le prix va continuer d'augmenter?
Oui, c'est sûr que c'est des bons signaux. Il faut qu'on prenne conscience que le prix va continuer d'augmenter. Ceci dit, il peut pas continuer à augmenter à l'infini. Là, c'est vraiment une conjoncture géopolitique internationale qui fait en sorte qu'on atteint des prix très élevés. Il pourrait redescendre dans les mois à venir. Ça va fluctuer, mais c'est certain que les prix vont rester élevés et qu'il faut changer nos habitudes en transport. Il faut que le gouvernement nous accompagne davantage que simplement avec des véhicules électriques subventionnés. Il faut qu'il y ait davantage de transports interurbains, collectifs, structurants qui soient mis en place. Le train, s'assurer qu'il y ait des autobus pour aller de ville en ville et évidemment dans les villes aussi davantage de transports actifs et en commun. Et ça, il faut qu'il y ait un support beaucoup plus important que ce qu'on voit aujourd'hui.
Bon, en terminant, je veux vous entendre sur Hydro-Québec, les surplus. Je veux vous entendre sur les autres formes d'énergie qu'on annonce souvent, là, je pense à l'hydrogène ou le gaz naturel renouvelable. Il se passe quoi chez Hydro-Québec, puis il se passe quoi avec ces nouvelles sources d'énergie?
Hydro-Québec reçoit énormément de demandes de compagnies qui veulent produire de l'hydrogène au Québec, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'atouts gagnants pour produire de l'hydrogène parce que l'électricité est pas très chère, mais il faut se rendre compte aussi que ce sont pas des énergies miracles et qu'il y a énormément de difficultés à faire lever la production pour que ça ait un impact à court terme. Et c'est ça la grande difficulté, c'est qu'on en parle beaucoup et c'est des énergies qui ont un certain potentiel, mais c'est pas ça qui va nous faire changer nos habitudes. Alors, elles rentrent dans le mix énergétique, elles sont encore très marginales. On a des gros problèmes pour faire lever les filières, surtout pour les biocarburants et le gaz naturel renouvelable. Ça fait des années que c'est en développement, mais c'est un développement laborieux qui coûte plus cher que ce qu'on pensait et qui est plus difficile à organiser. Et donc, c'est difficile, mais ça va contribuer d'ici 2030, 2040 à justement trouver des alternatives au pétrole.
Merci, M. Pinault. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Pierre-Olivier Pinault est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie, co-auteur du rapport sur l'état de l'énergie du Québec 2022.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Bon, on va parler du nouvel entraîneur du Canadien dans deux instants avec Martin et Danny. Mais d'abord, coup d'œil olympique, puis après ça, après le résumé, Michael Kingsbury est avec nous.
Oui, d'abord, le Canada vient de remporter une quatrième médaille aujourd'hui. C'est en patinage de vitesse longue piste sur 5000 mètres. Isabelle Wideman qui mérite l'argent. C'est sa deuxième médaille aux Jeux de Pékin. Elle avait terminé troisième aux 3000 mètres. Plus tôt aujourd'hui, le Canada a remporté le bronze dans l'épreuve des sauts par équipe mixte. Et la formation canadienne était entre autres composée de Mia Fontaine, le fils de Nicolas Fontaine. Et plus tôt cette nuit, il y a Elliott Grondin, médaille d'argent en snowboard cross, et une autre médaille, celle-là de bronze, par James Crawford au combiné alpin, ce qui fait que le Canada a maintenant 12 médailles depuis le début des Jeux.
Notre ami Michael Kingsbury est avec nous ce matin, toujours évidemment en direct des Jeux là-bas. Michael, bonjour.
Salut, ça va bien? En fait, je suis revenu au Québec.
T'es rentré, excuse-moi.
T'es rentré hier au Canada.
Ah, OK, ouais. Je pensais que t'étais encore là-bas. Parle-moi de ton expérience à ces Jeux, là, toi qui as fait les Jeux de Pyeongchang, de Sochi. Là, comment tu évalues Pékin?
c'est sûr que c'était mieux que je pensais. C'était différent, c'est sûr, que Sochi et Pyeongchang, parce que ici, quand on était à Beijing, il fallait faire des PCR à tous les matins. T'as aucune chance de croiser des Chinois quand t'es là-bas. Là, t'es vraiment dans une bulle olympique. Tu vois le village olympique puis la piste de ski, c'est tout. Mais c'était mieux que j'avais imaginé. Les installations étaient vraiment impressionnantes. Donc, c'était une belle expérience quand même.
Mais ça veut dire pas d'interaction avec les autres, la compétition, l'hôtel.
Exactement, c'est tout. J'ai pas vu, même à l'aéroport, c'est l'aéroport à Beijing présentement, c'est juste pour les Jeux olympiques. C'est impossible de sortir en fait du village. Là. C'est vraiment, vraiment strict. Surtout avec les tests puis toutes les affaires qu'on avait à faire, mais ça fut quand même une belle expérience.
Bon, tu reviens avec la médaille d'argent. T'as sûrement eu l'occasion de revoir la course à quelques reprises.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses, où t'as peut-être fait une faute ou commis quelque chose qui t'a coûté la médaille d'or?
En fait, j'ai pas commis de faute. J'ai été vraiment propre. Je dirais que ça a peut-être été ma meilleure performance olympique de mes trois jeux. C'est sûr que peut-être que j'aurais pu être un peu plus agressif dans mon milieu de parcours. Le Suédois, lui, a vraiment, en partant dernier, en ayant l'avantage stratégique, il a vraiment tout mis sur la table, puis il a sorti une bonne descente. Mais en termes de, si tu regardes la descente vue d'en bas, j'ai beaucoup moins d'erreurs que lui. Donc, sur le coup, je suis vraiment content. C'est sûr qu'en regardant, je suis un petit peu déçu. Je pense que j'aurais pu scorer un peu plus, mais je changerais rien à ma performance. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. C'était pas facile cette année, la piste à Beijing.
Après la course, ton entraîneur a dit on repart pour un autre 4 ans. Là, toi, t'as semblé dire wow, les moteurs, là, on va y penser. Est-ce que tu as eu l'occasion de réfléchir un peu là, à ce que tu allais faire maintenant?
Ouais, ben c'est sûr, je suis encore passionné par mon sport. Je sens que j'en ai encore à donner. Puis c'est sûr que j'aimerais ça. T'sais, c'est facile à dire, j'aimerais ça être là en 2026. Mais je veux y aller une année à la fois. J'aime ce que je fais, mais je veux pas me prolonger trop rapidement dans le futur. Mais c'est sûr que si je vais être présent en 2026, je vais tout faire pour aller chercher une médaille d'or. Je vais m'entraîner fort pendant les 4 prochaines années, mais j'aime mieux regarder une année à la fois. Puis si la tendance se maintient, puis je me rends jusqu'en 2026, j'ai un argent, une or, un argent. Donc je vais tout faire comme j'ai fait ici à Beijing pour essayer de faire la meilleure performance que je peux.
Mais tu sais, triple médaillé, là, je pense que t'es le seul dans l'histoire, là, dans ton sport, à avoir réussi ça. C'est d'abord un quelque chose. Puis deux, moi je me dis toujours quand je vous regarde performer par rapport à du sport d'équipe, là, toi t'es tout seul en haut de la pente, là, puis là tu joues, pas ta carrière, mais tu joues l'épreuve, puis il faut que tu sois, la pression doit être au maximum ou tu deals bien avec ça?
La pression est là, tu sais, pour de vrai je m'étais dit, tu sais, regarde mec, t'es champion olympique, t'as pas besoin de te mettre la pression pour tes troisièmes jeux, tu sais, t'as déjà accompli une bonne partie de ton rêve, mais les jeux c'est vraiment spécial, puis surtout dans notre sport, tu sais, j'enlève rien au sport comme le patin de vitesse ou les sports qui ont plusieurs chances, mais le mien c'est performance sur demande, tu sais, c'est même pas comme le snowboard où c'est la meilleure descente des trois. Moi c'est tout le temps, tu sais, si je fais une erreur je suis hors de la compétition, donc c'est ça, je pense que c'est encore plus spécial quand t'as un événement puis j'ai 3 médailles consécutives aux Jeux olympiques. Mais ouais, il y a de la pression au jeu, il y a beaucoup d'émotions, puis c'est juste vraiment 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 spécial. Puis je suis fier de la manière que je me suis comporté avec, en étant le favori encore, tu sais, en haut du parcours quand il fait moins 35, divan de côté, puis est capable de garder son sang-froid puis ses nerfs vraiment solides. J'échangerai rien pour tout ce que j'ai fait.
En tout cas, bravo. Puis nous aussi, on est très, 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 très fiers de toi. Puis je parle au nom des auditeurs, des auditrices, puis bien du monde, là. Non seulement vous êtes des athlètes performants, mais vous êtes des êtres humains inspirants. Bravo, Michael.
Félicitations.
Ah, merci beaucoup.
OK, à bientôt.
Merci.
Salut. Bye-bye. Tu diras bonjour à ta mère, qu'on aime toujours aussi.
Fidèle auditrice.
Oui, on aime ça lui parler. Bon, voilà pour ce qui est du volet olympique. Maintenant, bombe hier chez le Canadien. Et là, j'ai passé, je dois dire, pas tellement à celui qui est nommé qu'à celui qui a été sorti, là. Dominique Ducharme, le gars est en finale de la Coupe Stanley. Puis quelques mois après, moins d'un an après, bang, il se fait sortir. On va faire une discussion ce matin avec nos amis. Martin McGuire, bonjour.
Bonjour, bonjour Paul.
Et bonjour, Danny Dubé, bonjour.
Salut.
Bon, allô.
Parlons, avant de parler du nouveau, là, parlons de celui qui s'en va. Là. T'sais, des fois dans la vie, t'es pas surpris de ce qui t'arrive. Mais en même temps, tu dis, moi j'ai dirigé une équipe, mon joueur vedette est absent, c'est mon gardien de but. Des joueurs ont quitté parmi les meilleurs. J'ai eu des cas de COVID, j'ai eu des blessés. Martin, quel sentiment tu penses que Dominique Ducharme vit?
Ben, je pense qu'il s'était résigné à vivre des moments difficiles depuis un certain temps, parce que non seulement il a perdu ses meilleurs joueurs, mais il a perdu ses meilleurs leaders. Les gars qui ont fait en sorte que quand il a pris la job, il y a moins d'un an, jour pour jour, derrière Claude Julien, qui était encore respecté au moment où Marc Bergevin a décidé de le congédier, là, ce sont ces mêmes leaders-là qui ont dit « OK, le bateau, on va le prendre ». Puis le message du coach, il va passer. Fiez-vous sur nous. Puis là, je parle de Weber, de Perry, de Price. Tu sais, puis ensuite, il y a eu les autres, là, les Gallagher, les Petrie qui ont suivi. Alors ça, Dominique Ducharme, quand ça a commencé au mois d'octobre et qu'il savait qu'il n'y avait pas ces gars-là, il savait pertinemment que ce serait difficile. L'autre affaire, quand une ligue comme la Ligue nationale, comme c'est compétitif, même si tes boss t'ont dit que tu finirais l'année, et que tu te fais planter à répétition, comme c'était le cas pour le Canadien, depuis une dizaine de matchs. Je pense que Dominique Ducharme, quand il a dirigé sa dernière pratique hier, savait qu'il était sur du temps compté à cause de ça.
Danny?
Ben, tu peux pas. Dis-moi, c'est qui est ton gardien, je veux te dire, à quel point tu es un bon entraîneur. Il y a pas personne dans la Ligue nationale qui peut survivre la situation que Dominique Ducharme a vécu. Il y a personne qui peut aspirer, même pas à être compétitif à tous les soirs, sans avoir un gardien de but qui va les garder dans le coup, surtout dans la situation du Canadien de Montréal avec les nombreux blessés et tout ça. Donc, c'était une question de temps, évidemment. L'accumulation des blessés, les situations, l'instabilité créée par la COVID, etc. La situation particulièrement des équipes canadiennes, au Québec particulièrement. Tout ça, là, c'est des facteurs aggravant. Ça ne fait qu'augmenter la pression sur les dirigeants et sur l'entraîneur. C'est pas pour rien que Ducharme a perdu son emploi, que Marc Bergevin a perdu son emploi. Puis je terminerai en vous disant ceci, messieurs. Les organisations où on change très souvent d'entraîneur, c'est des organisations qui ont pris beaucoup de mauvaises décisions.
On repêche.
Et là, c'est le troisième en un an, là. Parce que Claude Julien était congédié en février 2021.
Ça nous donne une idée.
Écoute, je vais faire du millage un peu sur ce que tu viens de dire, Danny, en parlant de « Trouvez-moi un bon gardien, moi vous trouvez un bon entraîneur ». C'était pas la job, ça, de Hughes et Gordon durant la pause du match des Étoiles, d'aller en trouver un quelque part, un vétéran là qui va se faire bombarder à tous les soirs, là, puis nous, ça va permettre d'envoyer Primo à Laval. Tu sais, une espèce de gars là qui va servir de chair à canon pour finir la saison.
Tu sais, Alain, je vais te dire une chose, là, je te fais la prédiction tout de suite, il va en arriver un gardien.
Il va en trouver un pour Martin Saint-Louis, je pense.
En plein zoo.
Bon, mais là...
Ça veut-tu dire qu'il voulait pas en trouver un pour Ducharme?
Non, non, mais c'est parce que là, Kent Hughes amène Martin Saint-Louis, Paul. Puis moi, je pense qu'il l'amène par intérim vraiment, là. Les gens à qui j'ai parlé hier me disent que Kent Hughes voulait travailler depuis longtemps avec Martin Saint-Louis, avait ciblé Martin comme un gars avec qui il aimerait travailler. Puis je pense que Martin ne sera pas longtemps coach. Je pense qu'il va plutôt être assis près de Kent Hughes, un peu comme Daniel Brière va faire avec les Flyers de Philadelphie. Puis la job de coach, là, il est venu éteindre un feu à la demande de Kent Hughes. Après avoir dit ça, si tu veux protéger le gars avec qui tu veux travailler éventuellement, puis pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, t'es mieux de l'aider. Alors là, on va peut-être en trouver un gardien, un vétéran des ligues mineures à quelque part, qui va être capable de, avec Montembeault, faire une job, disons un peu plus honnête, là.
Danny, la chose là-dedans que je trouve, là, c'est vrai, c'est pas unique au hockey, c'est vrai dans plusieurs entreprises. Là, on commence à être beaucoup dans le chum qui engage le chum, qui engage le chum, du chum, puis le chum. Là, tu sais, là, c'est des gars qui se connaissent parce que leurs fils ont été à l'école ensemble.
Mais c'est pas un peu normal, je veux dire.
Mais là, c'est un certain point. Tu sais, là, les fils ont joué ensemble, ont joué un contre l'autre, ils ont coaché un contre l'autre, ils ont... tu sais, là, ça reste que Martin, il coachait du U13 là, avant d'arriver. Il va trouver que les changements de ligne, ça vient pas mal plus vite dans la Ligue nationale que dans le Pee-Wee, là.
Mais moi et Martin, on a eu la discussion, là. Tu sais, tout ce qu'on vous discute ensemble, là, c'est vraiment, on a eu des discussions parce que, écoute, c'est pas un dossier, c'est pas un léger dossier, là, celui du remplacement de l'entraîneur. Puis nous, on est d'accord sur une chose, c'est que la défaite de 7-1, ça a changé les plans de Kent Hughes.
Ouais.
Kent Hughes, là, je pense que dans sa tête, il voulait pas changer d'entraîneur. Dans sa tête, il se disait, bon, c'est un dossier qui est secondaire pour l'instant. Mais là, placez-vous dans ses souliers. Il mange une méchante volée après avoir eu un congé d'une semaine contre la pire équipe du mois de janvier dans la Ligue nationale. Une équipe qui a de la difficulté à gagner, qui n'a même pas ses gardiens de but. Il manque un de ses bons joueurs. Écoute, puis là, il mange une raclée 7-1. Là, nous autres, on se regarde, on dit, non, mais sérieusement, imaginez s'il y avait des gens dans les gradins actuellement. Ce serait terrible, là.
Ben oui.
Donc, si nous, on le pense, eux, ils pensent aussi. Donc là, ça a accéléré le processus. Et moi, je pense que Martin Saint-Louis, comme Martin l'a dit tantôt, McGuire, on jasait ensemble, puis on est d'accord pour dire que là, il vient un peu colmater une brèche, prendre une lecture dans le vestiaire. Puis moi, je pense pas que l'idée principal de Kent Hughes, c'est d'avoir Martin Saint-Louis comme entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Je pense que c'est beaucoup plus de l'avoir à ses côtés pour prendre des décisions. Puis après avoir été dans le vestiaire, puis fait le tour du jardin, je peux vous dire une chose, on va avoir une bien meilleure lecture à partir de ce moment-là pour les gens qui vont prendre des décisions ultimement.
Okay, Martin, on est toujours dans une situation où il y a des vétérans qui regardent leur montre puis leur téléphone pour savoir quand ils vont partir. Là. Je pense à Chiarot, à Petrie, puis même à une couple d'autres là, qui sont pas annoncés, mais qui sont dans la même état d'esprit. On est toujours là-dedans. On est toujours avec deux gardiens de but qui sont pas tout à fait à niveau pour la Grande Ligue. La fin de la saison, elle va être moche, elle est gâchée, puis c'est fini. La seule chose, c'est qu'ils vont essayer d'assainir l'air pour faire en sorte que les jeunes qui vont rester vont peut-être regarder Martin Saint-Louis avec un œil différent, puis vont peut-être un peu prendre de son expérience, puis ça va ramener quelque chose d'un peu plus positif autour de l'équipe. Je pense qu'il y a ça également derrière la démarche, mais je souligne sur ce que Danny vient de dire, je pense que c'est une situation de crise auquel ils ont fait face, puis ils ont choisi Martin Saint-Louis pour temporairement venir la régler en attendant que.
Et peut-être aussi aider à ramener du monde dans le building, parce que dans un mois, ils vont pouvoir mettre 21 000 spectateurs.
Oui, on est sûr que ça va tirer.
Vas-tu réussir à vendre 21 000 tickets pour chaque match, là?
Ouais, non, mais parce qu'il faut se dire une chose, là. Si vraiment Martin Saint-Louis, c'est un proche de Kent Hughes, là, c'est vraiment son ami, là, veux-tu vraiment y faire ça?
Danny, écoute, c'est ma question. Depuis que Alain me répète qu'ils sont chum. Moi, c'est mon chum. Je fais pas ça. Tu te rends dans le vestiaire de la pire équipe de la Ligue en fin de saison. La moitié de la classe te regarde. Ils veulent juste sacrer leur camp.
Ben oui.
Tu dis, promets-moi d'autres choses après, là.
C'est ça.
Non, ben, si tu le rentres puis tu lui donnes un mandat, Paul.
Ouais.
Tu sais,
ouais.
Le okay, mandat, c'est... OK, 10 secondes, parce qu'il faut terminer. Est-ce que le chien de Patrick est mort avec le Canadien?
Non.
Non, du tout.
Non?
Du tout. C'est un autre dossier.
Une autre affaire. Alors, on va vous réinviter pour
parler.
C'est
vrai que lui, il est là par intérim.
Nous autres, c'est notre truc, hein. On vous dit toujours ça. Non, on va revenir.
Mais là, il est par intérim. Ça fait que ça se peut bien qu'à l'automne, il y en ait un autre, là.
Hein? Ben
ça.
Oui. Comme dit mon ami Claude Poirier, 10-4.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.